Divergence numérique sur Divergence FM. Gilles Bouget au micro rouge, Albert Bruc au micro jaune. Anthony dans le couloir en train de se battre avec des fichiers qu'on a récupérés de musique pour égayer un petit peu cette deuxième émission de Divergence numérique. Pour parler du logiciel libre, bien sûr, sur Divergence. Alors, pour l'instant, on n'est qu'avec Albert. Il faut préciser que Jean-Claude, il est parti à Lyon, car l'actualité du logiciel libre est rudement bien étoffée, Albert.
Tout à fait. Jean-Claude est à Lyon depuis ce soir et moi demain.
Voilà.
Pour les journées du libre de Lyon, qui sont deux journées dans lesquelles de nombreuses personnes viennent assister à des conférences et découvrir ce qu'est le libre.
Voilà, alors des conférences, il y en a eu il n'y a pas très longtemps, c'était à l'ECM Diego Kawanga qui avait accueilli une journée librement vôtre, comme les auditeurs de Divergence ont pu l'entendre. Ça, on en parlera à la fin de l'émission.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc il y avait pas mal d'intervenants de choix, même s'il y a eu quelques absents, je pense à Denis Baudor, par exemple.
Oui, Denis Baudor n'a pu être là, mais il a fait venir son collègue et ami Dimitri Robert, qui est le rédacteur en chef de Linux Pratique, qui est un magazine de l'édition Diamond, qui édite aussi Linux Magazine France.
Voilà, et puis cette émission sera consacrée aussi pour une bonne part au jeu. Le jeu et le logiciel libre, ça veut dire quel jeu, quel logiciel libre, quel jeu qui tourne sur Linux, les jeux libres sont-ils des jeux qui tournent sous Linux ou pas, on essaiera d'éclaircir un petit peu tout ça. Petite parenthèse peut-être, est-ce que la population des utilisateurs de Linux compte beaucoup de gamers comme on dit?
Elle est moins importante que la communauté Windows ou PlayStation ou GameCube ou autre machine de jeu ou même Xbox, mais elle commence à se développer et les jeux commencent vraiment à devenir maintenant très très intéressants et vraiment agréables à jouer. Et d'ailleurs, on peut dire qu'il y a maintenant aussi des jeux propriétaires, c'est-à-dire sous Linux, et ça on en reparlera aussi tout à l'heure avec notre interviewé.
Voilà, qui sera?
Gaulier.
Gaulier, c'est son prénom?
C'est son vrai nom.
C'est son vrai nom. Non, c'est son prêt,
non? Non, non, c'est son nom.
D'accord, c'est son nom. Il sera avec nous, je crois que c'est quelqu'un du CRI.
Non, c'est un garçon de Alternative 87.
Alternative 87.
Que nous avions interviewé le mois dernier pour leur projet sur Knopix et l'éducation, post-bac, qui réalise en début d'année prochaine une manifestation internationale sur le jeu libre sous Linux et le jeu en général.
Très bien, et puis on va parler évidemment aussi des brevets logiciels, les brevets logiciels avec une nouvelle péripétie, dirait-on.
Oui, encore, et pas une des plus tristes. Vous avez déjà pu assister, si vous êtes des fidèles de Divergence, aux émissions qu'a faites Jean-Claude et Gilles sur la question. Nous avons gagné une bataille, mais malheureusement pas la guerre. Et les Anglais reviennent à la charge.
c'est un cas historique.
C'est un cas historique. Et en fait, toujours les petits chiens aux États-Unis, en revenant avec encore une possibilité de faire annuler le texte qui a été voté au Parlement. Alors bon, pour l'instant la situation est un peu difficile. Il faut que autant vous que auditeurs que nous intervenants du libre ou toutes les personnes que vous connaissez écrivent à leurs députés, à leurs maires, à tous les politiques qu'elles connaissent pour faire bouger les choses et empêcher qu'une telle chose se produise en fait. Parce que breveter le logiciel quelque part, c'est aussi breveter beaucoup d'autres choses.
C'est quelque part aussi imposer des solutions qui sont pas calculées ni designées pour le bien de tous à moindre coût, quoi.
Exactement. Et ça ne concerne pas le brevetage logiciel que le libre. Ça concerne aussi tous les logiciels, même propriétaires. Et il faut savoir qu'en Europe, les sociétés informatiques et ceux qui développent des logiciels libres ou propriétaires, ça correspond à peu près à 10 millions de personnes. Ce qui n'est quand même pas rien. Alors mettre 10 millions de personnes à la rue, je pense que ce serait pas une très bonne chose.
Et ben on va en profiter en parlant de millions de personnes pour saluer tous ceux qui nous écoutent, que ça soit aux alentours de Montpellier sur 93.9 MHz, que ça soit sur internet via le site, que ce soit éventuellement les lecteurs de Linux Magazine France que l'on peut saluer puisque ils ont le privilège et l'insigne honneur de pouvoir nous écouter régulièrement. Anthony nous a rejoint, Anthony délégué au logiciel libre à l'ECM Diego Kawenga. Salut Anthony.
C'était la course, oui, salut.
Voilà, alors il faut louer la rapidité, la promptitude des logiciels libres qui nous ont permis en un temps record de récupérer des données qu'on avait perdues dans des Windows improbables. Enfin, en tout cas, tout marche bien. On aura de la musique dans cette émission.
Grâce à Linux, on peut le dire.
Voilà, grâce à Linux. Je crois que notre correspondant est en ligne.
Allô, Jean-Philippe ?
Oui.
Jean-Philippe ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, bonsoir Jean-Philippe.
Bonsoir.
Bien le bonsoir à tout le monde.
Alors, vous organisez à Alternative 87 en début de l'année prochaine un salon sur le jeu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus de quoi il en retourne?
Oui, bien sûr. Je vais peut-être présenter un petit peu Alternative 87 d'abord.
Mais bien sûr.
Donc Alternative 87, c'est une association qui prend place à Limoges, dans le Limousin. C'est un LUG, un groupe d'utilisateurs Linux, et qui a pour but la promotion du logiciel libre. Pour Pâques 2004, nous avons prévu d'organiser un salon du jeu vidéo sous plateforme libre. Donc ce salon aura lieu le 9 et le 10 avril à Limoges. Et on est en train d'essayer d'obtenir des conférenciers qui pourront parler du jeu vidéo libre, peut-être aussi un petit peu moins libre, mais toujours sous plateforme libre, à savoir GNU Linux ou BSD. Et pendant ce salon, pendant ces deux jours, il y aura un concours, un LAN Arena, un village associatif comme on a pu en trouver au Romeleleu, et des démos, bien sûr. Donc voilà un petit peu l'idée du salon. Ce qu'on peut en dire d'autre, c'est que il y a plusieurs buts derrière. C'est faire venir un petit peu des gens qui n'ont pas l'habitude des logiciels libres, et leur montrer que il n'y a pas que sur des plateformes propriétaires que l'on peut jouer à des jeux magnifiques. Je citerai par exemple Enemy Territory, qui est en train de faire un malheur ces temps-ci, ou des jeux plus classiques qui ont gagné pas mal de Linuxiens, je crois, comme Frozen Bubble. Donc ça sera deux jours que nous espérons prolix en termes de contact, et on pense que beaucoup de personnes vont pouvoir s'intéresser au logiciel libre par cet intermédiaire.
Et est-ce qu'il y aura seulement des intervenants français, ou est-ce que des intervenants étrangers d'autres pays d'Europe ou même des États-Unis seront présents?
Alors, on a pour l'instant pris des contacts avec une équipe anglaise qui est sur un projet international qui s'appelle WordForge, et on attend un petit peu, puisque de notre côté on est en train de tout mettre en place, mais on a bon espoir que, en effet, au moins une équipe anglophone puisse venir nous rejoindre sur le salon. Alors ça nous pose des questions, parce que tout le monde n'est pas bilingue, pas encore tout du moins. Et ça demande une mise en place assez importante de ce côté-là. Et comme le public présent pourra aller de 3 à pas d'âge, on se pose pas mal d'interrogations à ce sujet-là, mais on espère bien sûr que l'événement pourra être européen, voire pourquoi pas international.
Et ouais, c'est Anthony là qui... Est-ce que vous comptez aussi attirer les éditeurs de jeux français, enfin locaux, pour...
Alors, pour l'instant, nous sommes en pourparlers avec un éditeur de jeu. Bon, je garderai son nom pour le moment. On espère, oui, que des gens comme ça vont pouvoir venir, ben, pour pouvoir créer des contacts avec les programmeurs du monde libre, hein, qu'ils puissent voir un petit peu autre chose, voir aussi la capacité qu'on a aujourd'hui dans le monde du libre, hein, et que nous, on puisse aussi voir des choses qu'on ne connaît pas forcément très bien, des réseaux qu'on ne connaît pas encore, et pourquoi pas obtenir des partenariats. Alors, pour les équipes présentes, je citerai Nekeme, qui est assez connu au niveau du jeu. Il y a des gens comme ça qui, pour l'instant, nous ont répondu positivement et qui pensent venir faire des conférences.
Alors, ce salon, c'est une première. Est-ce que vous pensez prendre un risque quelque part? Combien de personnes vous attendez? Vous faisiez allusion justement il y a quelques instants au fait que s'il y a une équipe anglophone sur place, ça implique toute une organisation un petit peu différente. J'imagine que il s'agit de peut-être de traducteurs ou de traduction instantanée, etc. Simultanée, je veux dire. Est-ce que vous pensez que vous allez tenir le choc? Au niveau de la logistique et de l'organisation,
on est assez partagé à ce propos-là. Disons que c'est une première, c'est vrai, française, en tout cas, ça en est sûr, peut-être internationale. Tenir le choc, on l'espère, sinon on ne se démènerait pas autant sur ce projet. C'est au niveau du nombre de visiteurs qu'on reste indécis. Bon, bien sûr, on va faire de la pub, hein, par tous les réseaux de com qu'on connaît. Donc d'ici à février, vous devriez voir apparaître Game Over, qui est le nom du salon, le voir apparaître un petit peu sur des affiches, sur des sites, etc. Mais on reste encore dans l'incertitude quant au nombre de visiteurs. Donc c'est pour cela qu'on est en train de mettre l'accent sur toute la partie communication, en train de travailler beaucoup dessus pour essayer justement d'attirer le plus grand nombre de personnes possible.
Alors là, c'est une question un petit peu ouverte que j'ai envie de poser à vous trois, à la limite. On le mentionnait un petit peu tout à l'heure, les gens du libre, souvent on imagine que c'est des informaticiens, les gens qui sont, on va dire, du côté complexe et pointu de l'informatique. On imagine aussi qu'il y a pas mal de joueurs, mais par rapport à l'OS PhD, Push Here Dummy, est-ce que les gens... est-ce que les gros joueurs qui jouent sur PC sans se poser trop de questions et qui achètent les jeux sans poser non plus, est-ce que vous sentez qu'il y aurait un frémissement qui faisait que ces gens-là se tourneraient vers des solutions libres maintenant qu'on peut avoir des jeux un petit peu performants sur des plateformes alternatives?
Alors, je vais peut-être donner une réponse et puis Albert et Jean-Claude compléteront peut-être.
Albert et Anthony, oui.
Donc, aujourd'hui, il y a, je citais tout à l'heure Enemy Territory, c'était pas innocent, parce que c'est un des premiers jeux très complets, c'est du style, comment dire, Half-Life, Counter-Strike, pour les joueurs qui peuvent nous écouter. C'est un jeu qui existe sous plateforme Windows et sous plateforme libre, donc pour Linux. C'est un jeu distribué gratuitement et qui permet donc de jouer en ligne, et c'est vraiment quelque chose d'abouti. Donc on pense que par ce biais-là, c'est-à-dire permettre aux joueurs qui jusqu'à présent jouaient sur des plateformes propriétaires de venir jouer sur des plateformes libres en gardant leur jeu, auront moins de réticence, parce que jusqu'à présent, bon, quand on parlait de Linux, beaucoup de remarques qu'on entendait de la part des joueurs, c'était oui, mais il n'y a pas de jeu. Ça se limitait un petit peu à Frozen Bobble, mais c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu un essor considérable, avec un travail formidable d'un certain nombre d'équipes. Hein.
Du côté non libre aussi, mais sous Linux, je pense qu'on peut citer aussi, après Enemy Territory, Quake, qui avant d'être porté sous Windows, est d'abord fait à la base sur sous un système Linux. Ça, peu de gens le savent, mais c'est le cas. J'aimerais d'ailleurs apporter une ratification, tu m'excuses Jean-Philippe, mais j'avais dit lors de la première émission de que nous avions fait à Divergence, il y a de ça maintenant plus de 8 mois, que Quake était plus rapide sous Linux que sous Windows. Et on m'a critiqué là-dessus beaucoup. Alors je voulais dire qu'effectivement c'était le cas du moment que la machine est biprocesseur. Parce que Windows ne sait pas gérer la machine bipro alors que Linux le sait. Et Quake, dans ce cas-là, est bien plus rapide sous Linux avec une machine bipro que sous la même machine sous environnement Windows avec bipro parce que ça ne marche pas. Tout simplement. Voilà, excuse-moi.
Voilà, une remarque à l'attention des rares possesseurs d'ordinateurs à double processeur qui jouent en plus à Quake dessus.
Il y en a qui m'ont fait la réflexion, donc c'était pour leur signaler. Voilà.
Non, rien de plus. Moi, je suis pas joueur en particulier, donc et à l'ECM non plus.
Albert, est-ce que toi, tu es joueur ?
Moi, j'étais joueur. C'est vrai que maintenant, avec le libre, j'ai un peu moins d'occasion. Mais il me semble, Jean-Philippe, tu m'arrêteras si je me trompe, que une société française du nom de Nevrax, avec le soutien de la FSF, avait mis un système de MMORPG, qui est en fait un jeu massivement multijoueur. Dans le domaine du libre. Tu en sais un peu plus là-dessus ou pas? Tu peux nous en parler un peu plus?
Alors, sur les MMS, alors sur cette société-là, je peux pas confirmer, mais par contre, je sais qu'on a invité des groupes de codeurs qui sont en train de développer des choses de ce côté-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va toucher un grand pool de joueurs. C'est vraiment la tendance du moment, si je puis dire, sur le web.
En fait, il faut peut-être aussi expliquer ce que c'est
aux auditeurs.
Oui, oui. On n'est pas encore à la télé.
On n'y est pas encore.
On n'y est pas encore. Mais les MMORPG, en fait, c'est des jeux massivement multijoueurs. C'est des équivalents à Dark Age of Camelot ou d'autres jeux du même genre d'ailleurs. Parce que je connais que Dark Age of Camelot de nom, mais les autres.
Voilà, des jeux qui sont conçus pour être joués en réseau, ou voire sur Internet ou voilà, carrément sur Internet,
avec des personnes connectées.
Voilà, qui apparaissent même comme d'autres personnages dans le jeu, au lieu que ça soit l'ordinateur qui les calcule.
C'est exactement ça.
Tout à fait.
Voilà. Est-ce que les éditeurs, parce que bon, on le voit de plus en plus, hein, que les jeux qui sont vendus dans le commerce, ils tournent sur Linux, etc. Est-ce que c'était le cas est-ce que c'est nouveau le fait que les éditeurs, maintenant sur les CD, on voit plus seulement marqué PC Mac, on voit marqué PC Mac Linux, etc. Est-ce que c'est une tendance à la hausse? Le fait que les éditeurs propriétaires assurent une compatibilité croissante de leur production.
Alors, je crois que c'est un petit peu en fonction du parc d'utilisateurs présents, et c'est on retrouve l'histoire du serpent qui se mord la queue, parce que lorsqu'on interrogeait des éditeurs à l'époque, on nous répondait on fera des jeux pour Linux. À partir du moment où il y aura des joueurs. Et les joueurs, eux, nous disaient, on ira sous Linux quand il y aura des jeux. Donc oui. C'est vrai que c'était une question assez difficile. Bon, je crois que le parc d'utilisateurs plateforme libre aujourd'hui est grandissant. On voit aussi peut-être au nombre de distributions et à la facilité de plus en plus accru à l'utilisation de ces distributions. Donc je pense que les éditeurs n'auront pas tellement le choix, et à terme, s'ils veulent ne pas oublier une part de marché, porteront aussi leur logiciel sous Linux.
les jeux en matière de droit, c'est quand même des créations qui sont âprement défendues par leurs créateurs, souvent parce qu'il y a des éléments graphiques qui peuvent être assez pointus, des personnages qui peuvent être entre guillemets déposés. Est-ce que c'est un domaine particulier vis-à-vis du libre? Est-ce qu'on arrive mieux à libérer des formules mathématiques abstraites que des décors ou des personnages brevetables entre guillemets?
Alors ce qui se passe, ce qu'on trouve beaucoup et ce qui a l'air de devenir plus en plus, je dirais, à la mode entre guillemets bien sûr, c'est que les moteurs sont développés en libre, en GPL, et par contre tout ce qui concerne les données par derrière, donc la définition de personnages particuliers ou des choses comme ça, sont des choses un petit peu plus fermées ou tout du moins payantes, de manière à ce que les programmeurs qui ne sont pas beaucoup, je dirais, dans ce domaine, et je pense particulièrement aux graphistes, qui seront rares dans la communauté, puissent vivre de ce qu'ils font.
Alors, on pourrait peut-être reparler de Game Over. Rappelez-nous les dates et puis quelle superficie vous avez sur le site. Comment ça va se passer, comment, de façon pratique?
Alors, les dates 9 et 10 avril 2004 à Limoges, donc dans la Haute-Vienne. Comment ça va se passer? Eh bien, il y aura des conférences pendant toute la durée du séjour, sur les deux jours, étendu sur les deux jours, a priori. Et dans une autre, donc ça bien sûr dans un amphithéâtre, et dans une autre partie, eh bien on retrouvera le village associatif qu'on connaît bien maintenant, qu'on a pu voir à Linux Solutions en février, qu'on retrouvera encore cette année au CNIT à Paris. Un espace dédié à un grand jeu en réseau, je dirais, où les gens pourront venir s'amuser, se battre entre guillemets les uns contre les autres. Un concours avec bien sûr un prix à la clé, donc ce prix n'est pas encore déterminé, mais
c'est promet
un bon amusement a priori. Et puis eh bien des démos de différents jeux présenté pendant ce séjour, ou des jeux dont nous avons connaissance, mais dont les auteurs n'ont pas pu nous joindre, malheureusement.
Albert?
Nous te remercions, Jean-Philippe, pour avoir passé...
J'ai une dernière question, alors.
Alors,
si c'est comme ça, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez trouvé des partenaires efficaces, et voire institutionnels, sur ce coup-là?
Alors, c'est la grande question. Nous sommes en pleine démarche, et ce n'est pas chose aisée ces temps-ci, je dirais. Donc, bien sûr, nous, de notre côté, on essaye de voir avec l'université, qui est quand même assez présente à Limoges. Et puis, on a commencé à prendre des contacts avec des personnes proches d'institutionnels. Donc là, c'est en plein dans nos démarches, mais toutes les personnes que nous avons rencontrées jusqu'à présent nous ont dit que c'était très difficile et que eux, dans les démarches qu'ils avaient faites, ça n'avait pas donné grand-chose. Donc on croise les doigts et puis on dit à tous nos auditeurs qui nous écoutent que les dons et les participations sont les bienvenus.
Bon, Jean-Philippe, je te remercie d'avoir participé à l'émission avec nous et nous ne manquerons pas de te recontacter à la fin mars, le dernier jeudi, pour suivre et connaître la dernière ligne droite de votre salon Game Over.
D'ailleurs, je suis avec un grand plaisir. Je rajouterai peut-être deux mots pour finir. L'adresse où on peut nous joindre.
Tout à fait.
contact@game-over.eu.org. Donc le site sera bientôt up, on est sur les finitions. Et puis je dirais aussi que Alternative travaille sur une distribution pour l'enseignement supérieur qui s'appelle la FriluxUp et qui est toujours en phase de bêta test parce puisqu'on continue d'intégrer de nombreux logiciels, mais un gros travail est fait à ce sujet, et vous pouvez avoir plus de renseignements sur www.friduc-sup.eu.org.
Voilà, friduc-sup.eu.org.
Voilà.
Merci beaucoup et puis à très bientôt alors.
Merci, à bientôt.
Oui, j'ai une question pour Albert en fait. Est-ce que Linux French sera présent au village associatif ?
Normalement, nous devrons y être avec Léa Linux, mais nous nous devons confirmer encore.
D'accord.
Voilà, très bien. Un petit peu de musique. Là, il s'agira pas d'aller bien au village associatif de Game Over, mais plutôt dans le Bastard Camp. Je ne vous en dis pas plus.
The world's stable now. People are happy. They get what they want, and they never want what they can't get. They're safe. They've got no wives, or mothers, or fathers, or loves to feel strongly about. In fact, they're so well conditioned they practically can't help behaving as they ought. And if anything ever goes wrong, you're the buyer or the seller, that you want, that you can't have.
voilà, toujours sur Divergence Numérique sur le 93.9 de Montpellier en hertzien sur www.divergence-fm.com si vous nous écoutez depuis là-bas. On écoutait Tox et le Moon, un groupe qui, ben, comme pas mal d'autres, eh bien, met sa musique en libre. C'est plutôt pas mal. Alors, je sais qu'il existe plusieurs licences de façon à faire de la musique libre. Alors, les défenseurs du droit d'auteur devraient s'arracher les cheveux en pensant à ça. Mais je crois que ça fonctionne. Il y a plusieurs sites internet consacrés à ça. Il y a plusieurs, on va dire, groupements de personnes qui emploient des juristes pour essayer de développer des textes qui puissent permettre, on va dire, la rediffusion gratuite des morceaux, même leur modification, du moment que c'est un échange de bons procédés, quoi, en quelque sorte.
Tout à fait. D'ailleurs, on peut dire à ce sujet qu'on vous prépare une petite surprise pour le mois de décembre. Une émission spéciale dans laquelle nous vous expliquerons toutes ces licences et en même temps dans laquelle vous pourrez écouter de nombreuses musiques libres, ce qui se fait de mieux dans la musique libre. Vous verrez qu'il y a vraiment de quoi s'éclater et faire la fête.
Voilà, et on écoutera sans faute Bastard Camp qu'on a failli écouter, mais je m'étais fourvoyé, comme on dit. Alors, il y a des soucis du côté des brevets. On va faire peut-être un bref rappel pour ceux qui n'ont pas écouté les précédentes émissions et qui ne sont pas trop dans cette branche-là. Depuis un petit peu avant l'été, une directive européenne proposait la brevetabilité des logiciels. Le texte a été on va dire fortement amendé, vu que ça s'est un petit peu retourné à l'envers, à savoir que il y a tellement d'amendements qui ont été apportés à ce texte que en fait le sens en a été retourné. Pour bien comprendre ce dont il s'agit, ça reviendrait la brevetabilité des logiciels, ça reviendrait à laisser la place aux plus gros, de sorte à ce qu'ils puissent en fait imposer des produits qui sont, encore une fois, rappelons-le, principalement conçus pour apporter de l'argent et pas forcément pour rendre service, quoi.
Et pour apporter de la qualité aussi. Ce qu'on peut dire avant de
parler... Ce serait la mort aussi de la pluralité quelque part, quoi.
Tout à fait. Ce qu'on peut dire, on va peut-être un peu revenir sur ce que sont les brevets et leur côté néfaste, surtout au niveau du logiciel, c'est que dans la manière dont ils devaient être votés au départ, et je rappelle que ce n'est toujours pas finalisé, les brevets avaient pour principe, le logiciel avait pour principe de rendre l'écriture même brevetable. C'est-à-dire, il faudrait imaginer à la limite qu'on prenne l'alphabet et qu'on brevette toutes les lettres. Et à chaque fois que vous écririez un livre, vous devriez payer une dîme à une société X ou Y. Et ça, c'est vraiment pas acceptable. Imaginez qu'on redépose le théorème de Pythagore, ou même, ça peut être encore plus vicieux, je dirais, dans le fait que on parle souvent du génome humain et de sa découverte et de sa disponibilité en disant qu'on ne va pas le breveter. Là, il n'y a rien à dire. Pour l'instant, tout le monde est d'accord pour ne pas le breveter. Mais après, pour le traiter, ce génome, il va falloir des machines et obligatoirement des ordinateurs. Ces ordinateurs qui seront utilisés pour faire des programmes, pour pouvoir travailler dessus, eux seront brevetés et donc rendraient inutilisables pour n'importe quelle société dans le monde, à part celle qui aurait breveté mais vraiment n'importe quoi, parce qu'il y a même une société australienne qui a breveté la roue, pour vous dire à quel point l'absurdité en est aujourd'hui arrivée. Alors donc il faut vraiment se dire que c'est la brevetabilité des logiciels, c'est vraiment quelque chose d'absurde. On le voit bien comment ça se passe aux États-Unis. Même si le logiciel libre arrive aux États-Unis, il a vraiment des difficultés. Et c'est un très grave problème.
Juste pour préciser, c'est pas dans le cadre informatique, tu parlais du génome humain, mais je crois qu'il y a déjà des parties de l'ADN qui sont brevetées, il y a des laboratoires qui ont déjà des difficultés à travailler sur des maladies comme certains cancers.
Et donc c'est plutôt mal barré. Alors il semblerait là en ce qui nous concerne, donc récapitulons, au 1er septembre, enfin début septembre, le texte avait été fortement amendé, et il permettait en fait de trouver un compromis, parce que c'est vrai que quelque part on comprend bien que, par exemple, je sais pas, une société qui fabrique un logiciel très très spécifique pour je sais pas moi gérer des robots pour fabriquer des voitures, ouais, ou n'importe quelle autre connerie, on comprend bien que les gens qui développent ce type de produit super spécifique, ils aient quand même possibilité, s'ils inventent des choses, de pouvoir les déposer. Et je crois qu'on était arrivé à un compromis qui protégeait, on va dire, la brevetabilité de logiciels à visée industrielle ou scientifique, ou etc., tout en protégeant quelque part l'initiative, l'inventivité, et puis aussi, on va dire, un rôle social plus que nécessaire par les temps qui courent. Du logiciel libre quelque part, quoi.
Tout à fait. En fait, ce qui a été dit pendant cette directive, c'est que ne seront acceptés que les brevets logiciels ayant un rapport avec l'énergie lourde. C'est-à-dire que tout ce qui est en rapport vraiment avec des robots, effectivement, des applications très très spécifiques. Et en fait, le développement de logiciels comme on l'entend, c'est-à-dire par exemple un traitement de texte, un tableur, un jeu, ne pourrait pas être breveté. Et ça devrait être une bonne chose. Seulement, ça n'a été que la première lecture. Maintenant,
voilà, donc l'affaire est pas finie. Il faut encore que ça suive le cheminement avant que cette histoire soit réglée, quoi.
Voilà. Seulement maintenant, les choses pressent, parce que des gens, je dirais, assez mal intentionnés, surtout vis-à-vis de l'Europe et des pays en voie de développement, ou même des pays entrant
dans l'Europe,
comme la Pologne, ou la Tchécoslovaquie, la Grèce, etc. Qui eux en plus n'ont pas vraiment d'industrie, etc., tout ça, et vraiment n'ont qu'à offrir dans leur développement que de la matière grise, eh ben on essaye justement de leur empêcher de donner leur voix à cause de ces brevets, et on doit malheureusement ça aux Anglais, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, encore une fois. Et la décision devrait être prise normalement aux alentours du 10 novembre, et c'est très
bientôt.
Donc, en fait, j'engage tout le monde, là, c'est vraiment un appel que je lance aujourd'hui, à contacter son maire, son député européen, son ministre, vraiment le plus de personnes qu'il connaît, d'envoyer fax, mail, courrier, papier, à tout ce qui peut ressembler à un responsable politique de n'importe quel parti, d'ailleurs, pour que les choses ne soient pas faites dans ce sens-là, parce que en plus d'être néfaste pour l'avenir de l'humanité, tout simplement, parce qu'il faut voir aussi que des pays émergents, on peut penser à l'Afrique ou à d'autres pays, eh ben on a une possibilité de sortir du marasme dans lequel ils sont, et que des pays, surtout un pays, les en empêche, et ça c'est assez regrettable, quoi. Parce qu'il faut savoir aussi que 99% des brevets sont détenus par les États-Unis, et que sur ces 99% de brevets, il faut savoir qu'il y en a aux États-Unis que 5% des sociétés qui le détiennent. Ça peut paraître assez fou, mais en fait tous les brevets sont détenus aux États-Unis, ou quasi, par des sociétés comme IBM, même si elle défend le libre, par Microsoft, au Japon par Sony, etc., quoi. Il y a beaucoup par Sun aussi, qui sont des sociétés qui sont très connues, dont on entend parler à la radio, à la télé, et que ça, il faut vraiment en tenir compte. Mmh.
Alors, une fois de plus, c'est le Royaume-Uni qui fait pression pour faire annuler le texte qui a été voté en septembre. Ça fait un petit peu penser à ce qui s'est passé pour un autre conflit, un petit peu plus militaire, une proximité entre de bonne guerre, quoi, hein, anglo-saxonne, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Est-ce que, parce que il faut préciser aussi que le texte original est venu aussi de la Grande-Bretagne.
Tout à fait, c'est un député européen qui s'appelle Arlene McCarthy qui a proposé ce brevet, qui a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, été retourné complètement par la majorité des députés européens. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 70% des députés qui ont voté contre ce brevet et qui l'ont amendé, enfin cette abrogativité des logiciels qui l'a amendé, et que ça, au niveau européen, ça ne s'était jamais vu, à tel point même que les députés européens n'ont jamais jusqu'à présent vécu une telle pression de leurs électeurs. Ils étaient jusqu'à présent des gens tranquilles, et depuis qu'ils ont proposé la brevabilité, ils se sont rendus compte qu'ils existaient. Mmh. Et ça, c'est déjà quelque chose.
Alors est-ce que les gens qui poussent dans ce sens-là sont quelque part encouragés, voire financés par les mastodontes de l'ingénierie informatique?
Mais il y a des lobbies, c'est clair, comme partout en fait, même si on ne le dit pas, en France il y en a aussi, dans tous les pays il y en a, aux États-Unis c'est vrai qu'il y a un bon côté là-bas, c'est qu'on sait qui donne qui et qui fait quoi, mais ici c'est beaucoup plus souterrain en Europe, et même si on a réussi à savoir que Arlene McCarthy était une ancienne employée du BSA, le BSA qui est un organisme pour la protection des logiciels, mais qui en fait n'a pas véritablement d'autorité, du moins en France, a fait ça, quoi. Alors c'est des choses qui sont un peu ridicules parce qu'on a réussi à les découvrir, mais surtout que c'est assez simple, mais parce que c'était un document Word d'ailleurs, et que sur les documents Word, vu qu'ils sont super insécurisés, on arrive à remonter jusqu'à la personne créatrice du document. Donc, enfin bref, ça ce sont des histoires amusantes, mais sans intérêt. Il faut savoir que oui, effectivement, il y a des lobbies derrière énormes, que bah, les sociétés comme Microsoft, Macromedia, tous ceux qui sont membres du BSA, ce n'est pas faire de l'aviation ou dire des choses qui ne sont pas vraies. Il suffit seulement d'aller sur le site du BSA pour voir quels sont les principales actionnaires, non c'est pas le mot, mais membres de cette association qui n'en est pas vraiment une.
Anthony.
Ouais, c'était juste pour ajouter une touche comique, il y a Microsoft qui a quand même perdu un procès sur des brevets les brevets se sont retournés contre Microsoft dernièrement par rapport à Internet Explorer.
Tout à fait. Et d'ailleurs le W3C qui est un organisme qui gère l'Internet. Alors c'est un organisme qui gère ce qui se fait sur Internet. C'est-à-dire quand vous faites une page web, normalement elle doit être conforme à des normes.
Merci.
Et en fait, c'est le W3C qui édicte ces normes. Toutes les normes qui sont sur Internet sont édictées par le W3C. Il faut savoir que Microsoft a été mis à l'amende de $500 millions par une société qui s'appelle EOLA pour ne pas avoir respecté sur les ans des brevets. Ils ont payé. Mais depuis, le W3C est venu à leur secours, ce qui est quand même assez amusant. Qui est pourtant un organisme qui lutte de manière assez tendue contre Microsoft, parce que pour dire justement, mais attendez, les normes que vous ne respectez pas, ce sont les normes que nous avons édictées et qui ne sont pas brevetables.
Que dire de plus, sinon peut-être donner une adresse ou deux pour se tenir au courant de l'actualité des brevets. Je pense par exemple à uucd.info.
UCD.info, c'est une autre chose. Excuse-moi, c'est UCD.info, c'est les droits d'auteur. Alors ça aussi, l'actualité
c'est un autre débat, oui.
Est chaude, parce que c'est le 15 novembre que ça va être, que l'action va être faite au niveau du gouvernement. Et c'est aussi un autre problème sur le copie de, la copie privée. Et malheureusement, on n'est pas très
optimiste
sur la question, vu ce qui s'est passé en Allemagne il y a deux semaines, parce que le UCD a été voté en Allemagne. Alors qu'est-ce que c'est le UCD? C'est en fait l'interdiction toute simple de copier un CD dont vous avez l'original. C'est aussi le fait de pouvoir enregistrer une émission sur un support. Alors que bon, jusqu'à présent, vous le faisiez avec un magnétoscope. Il faut savoir que sur un magnétoscope, sur les CD, sur les disques durs à l'heure actuelle, on paye une taxe qu'on appelle la taxe Taxa? Non, comment elle s'appelle? Le ministre, ancien ministre de...
Tasca,
merci.
Je vais essayer de Tasca, taxa les objets taxables.
Elle est taxée. Et donc, déjà, on paye une taxe, et en plus, là, maintenant, malgré le fait que nous payons une taxe, vont en plus nous interdire de faire ce qui est jusqu'à présent légalement autorisé. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, je vous rappelle que nous avons fait au mois de juillet une émission en direct des RMML. Vous avez pu écouter d'ailleurs le 31 juillet, dans laquelle Loïc Dachary explique tout à fait bien le problème. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur
radio.hero.info. On va s'écouter un petit peu de musique avant de clôturer par un retour sur la journée librement vôtre qui s'était tenue très très récemment. C'était en fin de semaine dernière. C'était ce samedi, 25 octobre. Oui, Albert, vas-y, tu
on
me
va prends. Des jeux aussi un petit peu.
On va parler des jeux aussi un petit peu. Alors parlons des jeux tout de suite. Car l'heure tourne et il nous reste un petit peu plus de 10 minutes, mais pas beaucoup plus.
Bon, ce qu'on peut dire sur les jeux, on a déjà parlé tout à l'heure avec Jean-Philippe, c'est que ils évoluent sous Linux et de belle manière, que ce soit avec des jeux effectivement comme Frozen Bubble, Quake, ou le jeu dont on a parlé d'ailleurs, ou Cult of Power aussi maintenant, qui est un jeu qui est assez connu des gamers de simulation, dont on vient d'avoir le code source. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'émulateurs de machines, même si bon, la légalité de ces logiciels est toujours plus ou moins discutable.
Voilà, un émulateur, c'est quelque chose qui fait ressembler votre truc qui n'est pas de l'alcool à quelque chose qui en serait, ou vice versa, ou comment faire apparaître un Macintosh sur votre PC ou l'inverse.
Tout à fait, oui. Ou même pouvoir faire émuler...
Une Atari...
Exactement, ou une Amiga, ou pouvoir émuler Windows à partir de Linux, ce qui permet d'ailleurs à beaucoup de gamers qui ont préféré Linux à Windows de continuer à jouer sur leur jeu Windows. Il faut savoir grâce à Wine et Winix étant une version un peu plus évoluée, mais propriétaire et payante, même si elle n'est pas très excessive, car ça ne dépasse pas les $20, on peut jouer donc à la quasi-majorité des jeux sous Windows. Les jeux évoluent beaucoup sous Linux, ça il faut le savoir. Les graphismes sont de plus en plus jolis, on trouve de plus en plus de jeux de qualité vraiment professionnelle, même dans des logiciels complètement libre, ça je tiens bien à le souligner, parce que des jeux comme Quake ou autres, qui sont des jeux propriétaires, sont déjà des jeux très beaux, mais d'autres libres sont maintenant vraiment aussi très beaux, et offrent un background, parce qu'on parle jeu, un background...
Des décors, oui.
Des décors, mais un fond, une histoire vraiment importante. On peut parler de Nekeme avec Slune, qui est un jeu de course, ou Arcanae, qui sont encore des jeux libres, des jeux de rôle, qui sont vraiment extraordinaires, et aussi des MMORPG, c'est des mots difficiles à dire, des jeux massivement multijoueurs. En français, c'est plus simple, qui sont en train d'arriver, qui sont en train d'être développés, comme Ariane ou comme d'autres. Nevrax, c'est une société française, a aussi mis son moteur de jeu en réseau en libre, donc pas effectivement le côté background dont on va être avec Jean-Philippe, mais a mis son moteur en libre. Ils sont aussi soutenus par la FSF, c'est la
Free Software Foundation.
Donc ça fait maintenant de plus en plus de monde. Il faut savoir qu'en fait un système se développe aussi avec les jeux, car il amène les non-informaticiens à découvrir ce système, et que le jeu est essentiel au développement de Linux. Il y a beaucoup de gens qui sont là avec Linux, qui disent, ouais, c'est mon truc, le jeu, non, c'est pas bien. Non, le jeu, c'est bien. Et plus il y aura de jeux sous Linux, plus il y aura de monde, et plus, en fait, on pourra s'éclater, et l'informatique sera là pour être ce qu'elle est, aider son prochain, et pas rapporter beaucoup, beaucoup d'argent à très peu de monde.
Voilà, peut-être deux, trois sites internet sur les jeux. Oui. Il y en a un qui c'est linuxgame.com.
Alors linuxgames.com. Et là aussi un autre qui est une référence, c'est Happy Penguin. Alors H-A-P-P-I.
Jack.
Y, merci.
P-E-N-G-U-I-N.
Voilà, S aussi. .org, qui sont les deux sites malheureusement anglophones de référence. C'est vrai qu'en France pour l'instant il y a pas grand chose à ce niveau-là. Nous à Linux Ranch, on essaye d'en parler le plus possible. Maintenant on est suivi un peu par d'autres sites sur le sujet. Enfin, vous venez sur Linux Ranch, vous tapez jeu et vous en aurez déjà une grosse quantité, et on essaie de parler des meilleurs et de ceux qui sortent vraiment du lot. Vous en découvrirez vraiment des intéressants.
Très bien. Et les adresses sur la brevetabilité, d'où fait-on signe? C'est une très bonne question.
Merci.
Je crois qu'on peut renvoyer les gens à linuxfrench.net
brevet au pluriel, oui. -logiciel.info, qui est la référence française et francophone sur le sujet. Sinon, sur le site de la FFII.org, qui est aussi l'organisme qui se bat le plus contre les brevets logiciels depuis le début, depuis déjà quelques années d'ailleurs.
Voilà, j'espère que vous avez tout bien noté. Maintenant, on va écouter Bastard Camp. En fait, le titre qu'on voulait écouter en tout début d'émission, on l'écoute, c'est presque bientôt fini, mais on aura quand même quelque chose à vous dire tout de suite après. Welcome to the Bastard Camp, where we always going up. Outside with the pork chop sandwich, Kegulade all in my cup. At the park, at the dog, baby mama showing off. It's a school of hard knocks, this is why we break you now. In a beat, make the bar hit shivers hard. I put that on the tee with the blood, you love it, love it, but I keep on it free. Set basket with the dossier, watch that glass, please. I drunk it up, start throwing up. I mean, that shit, I was cool. Stepped to the zone, I didn't know. In a game of pool, first we came on a nigga's name. Says, get the fuck up back. So I grabbed your beer from off the table. Earth was cracked, that's what they get for talking shit. I put them all in sand, then crack his soul, hit him to the stone. I get away fast, then I get away, I lost. But I was caught, this shit was so surreal. I was charged with salt battery, intent to kill. Welcome to the Bastard Camp, where we always going up. Outside with the pork chop sandwich, and you laid all in my cup.
Oh.
Il est presque l'heure de se quitter, mais on va quand même vous faire un petit comeback sur Librement Vôtre, la journée qui s'est tenue samedi 25 à Montpellier, 25 octobre. Une soirée Léa Linux et Linux French qui s'est plutôt bien déroulée. Il y avait quand même pas mal de monde.
Ouais, même très très bien déroulée. Je sais pas si j'ai un retour. Oui, très bien déroulé même. Ça a commencé à 14h et ça a fini vers minuit, minuit minimum pour ceux qui sont rentrés. Après, il y a eu un deuxième chariot qui a dû se coucher beaucoup plus tard.
Vers 4h.
Vers 4h, bravo. Ouais, il y a eu une 80 personnes en gros qui sont venues, et je dois remercier Léa Linux et Linux French pour le sérieux et pour en même temps le côté détendu de la rencontre, parce que c'était quand même détendu, il faut le dire, c'était pas prise de tête comme conférence. On a eu des bons invités, Thierry Stoer par exemple, Dimitri Robert, Olivier de PLF, dont je ne citerai pas le nom parce que c'est un terroriste du libre, et Pierre Jarillon, je dois en oublier. Non, c'était une très très bonne journée. Enfin, j'espère qu'on renouvellera l'expérience prochainement.
Alors, c'était principalement des utilisateurs déjà, hein.
C'était effectivement principalement des utilisateurs, mais pas que des utilisateurs, parce qu'on a pu discuter aussi dans le couloir avec ceux qui sont venus. C'est aussi des gens curieux du livre, de savoir un peu comment ça se passait. Et tous les gens qui sont venus, d'ailleurs, même au niveau du repas, il y a eu beaucoup de monde qui sont venus après manger, c'est qu'on a fini assez tard. Et c'était vraiment une journée extraordinaire. Et c'est vrai, comme l'a dit Anthony, les intervenants ont été à la fois très clairs, notamment Thierry Stoer pour expliquer ce que c'est que
les fichiers,
les systèmes de fichiers,
format de fichiers,
merci. Il a été vraiment très clair et très simple, parce que tout le monde a pu comprendre dans tout ce qu'ils ont pourtant de complexe dans la manière d'être, autant au niveau propriétaire qu'au niveau libre. Et c'est vrai qu'après, avec PLF et en fait PLF, pour situer un peu pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde.
Penguin Liberation Front.
Exactement, qui font en fait des pactages qui sont pas autorisés dans tous les pays. Donc, ce qui interdit certaines distributions de les diffuser dans tous les pays. Donc, en fait, ils permettent pour l'instant à la Mandrake et à Nasgaïa, qui est une autre distribution, d'avoir des pacotages, par exemple, comme DEC SS, qui permettent en fait de relire les DVD vidéo sous Linux, qui jusqu'à présent étaient impossibles, ou d'autres logiciastes, par exemple, qui devraient bientôt être disponibles sur Divergence. Mais ce ne sont pas les seuls, et voilà.
L'important, c'est l'accessibilité, je pense. Je sais pas ce que vous en dites, mais je pense que n'importe qui aurait pu comprendre tout ce qui s'est dit dans la journée.
Voilà, c'était assez complet. Pierre Jarillon, lui, a apporté un regard entreprise, on va dire, sur le libre, et puis qu'est-ce que ça permet réellement de faire comme économie, parce que il y a peut-être des choses qui n'étaient pas aussi évidentes que ça.
Surtout pour le faire comprendre, en fait, parce que la plupart des gens qui sont venus sont déjà dans le milieu professionnel, et pour leur faire comprendre aussi que dans une société, qu'elle soit privée ou administrative, en fait, on peut économiser de l'argent. Et en général, on s'est rendu compte avec Pierre Jarillon que ça pouvait aller de 25 jusqu'à 50%,
voilà.
Ce qui sont les applications.
25 étant un minimum, en fait.
Hein, 25 est un minimum, mais selon les applications, il faut ça aussi.
Donc sachez-le, même si vous nous écoutez, que vous êtes président d'un groupe multinational ou que vous avez au moins 1000 ou 2000 employés, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, vous économiserez au moins 25%, je veux dire, tout compris, hein, avec le petit-déj le matin, etc.
Et la formation.
Et en gagnant en qualité en plus.
Et la formation des employés aussi.
Voilà. On est en train d'exploser le compteur temps de cette émission, que nous allons essayer quand même de respecter. On vous rappelle que le salon du jeu et du libre et du jeu libre, etc. C'est Game Over, c'est les 9 et 10 avril 2004. On en reparlera. Et puis ce soir, tout à l'heure, c'est les Last Jeudi.
Ce soir, c'est la jeudi. Demain et après-demain, c'est son JBL à Lyon. Et le 27 novembre, à Montpellier, encore une fois, il y aura la journée libre organisée par l'association Hall.
Voilà, ça ne s'arrête pas.
Ça ne s'arrête pas.
On va se quitter en musique sur Song 32, Song 32. Je sais pas.
Ce qu'on peut ajouter quand même avant de clôturer l'émission.
On ne l'arrête pas.
On ne l'arrête pas. C'est que à partir de cette émission, Divergence numérique devient une émission. Alors attention, ça va être assez long. Divergence, ECM, Léa, Linux Wrench.
Parce que c'est vrai que lors de ces rencontres de samedi 25 octobre à Montpellier a été annoncé le rapprochement ou le jumelage de linuxfrench.net et de léa-linux.org.
On vous invite à venir sur nos sites pour avoir bien sûr de plus amples informations, parce que là on est vraiment en train d'exposer
le compteur. Voilà, on remercie Cyril Hugo qui a assuré la réalisation de cette divergence numérique numéro 2. Jean-Claude était avec nous par la pensée. Merci Albert, merci Anthony, et puis on se retrouve le mois prochain, le dernier jeudi du mois prochain.
Merci Gilles, merci à vous tous.
Et à tout à l'heure, last jeudi.
Au revoir.
He's the machine designed to dismember your life. And the fish protecting us all from the cat. And the cat infecting the world for a laugh. Cyborg on a mission to do some perfection. The doctor wants Ugu to love. System run, flips here for fun, and without a gun, he'll dice you with his golden fin. She's all over puff, cause he's such a sexy catch. Is she spying on him, or just a seafood match? Double seven, send me to heaven, cause for Mr. Pond, the women are fun. She knows what to do, she'll turn gold to goo, gold for the best
Les gens ont l'air tristes et sombres.
Vous posez trop de questions, Monsieur Jones. Parce qu'il manque d'électricité.
Divergence. Divergence.